Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Format spécial pour ce nouvel épisode, puisque nous allons tenter de dessiner le portrait d'Homo Numericus, soit ces femmes et ces hommes connectés que nous sommes tous devenus, mais pour quelle civilisation? C'est tout l'objet du dernier livre de l'économiste Daniel Cohen, qui, une décennie après son Homo Economicus, met tout son savoir interdisciplinaire et son talent de vulgarisateur au service de ce nouvel animal étrange. Endogamie, anomie sociale, désintermédiation et promesses non tenues, un être numérique décrit comme frustré, violent et pétri de contradictions. Nous verrons tout de même s'il n'y a pas au fond de la caverne une petite lueur d'espoir. Daniel Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure, président de l'École d'économie de Paris et auteur de Homo Numericus, la civilisation qui vient. C'est paru chez Albin Michel. Nous tenions à vous recevoir, car il n'est pas si fréquent de pouvoir apprécier le regard d'un économiste sur les enjeux civilisationnels du numérique. Au programme de cette émission, les nouvelles du meilleur des mondes, toujours, et la chronique de Juliette Deveau, qui prépare chaque semaine cette émission. Elle s'intéressera à la Silicon Valley et à son rapport sacré au travail. Le meilleur des mondes, saison 2, épisode 5, c'est parti.
Le premier être humain dont on est le nom, qui n'était ni un dieu ni un roi, c'est Imhotep, qui était un architecte.
J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain.
Pour moi, je pense qu'être pleinement humain, c'est à la fois s'épanouir comme individu, mais toujours dans une communauté, dans une fraternité élargie à toute l'humanité.
Oh, mon doux enfant de l'été, que sais-tu donc de la peur ?
Si l'on en croit les preuves archéologiques autour du site, lorsque les réserves en eau ont diminué, la forteresse s'est effondrée dans un entonnoir et les gens ont fui. Beaucoup sont morts.
C'est vrai, l'hiver vient. Et des choses sinistres viendront avec lui. Oh, the times they are changing.
Daniel Cohen, alors 10 ans, je le disais, après votre Homo Economicus, livre particulièrement primé, c'était évident pour vous de vous attaquer à l'Homo Numericus ?
Oui, il y a une continuité, évidemment, il y a un clin d'œil dans les titres. Homo Economicus, au fond, c'était le récit d'une société qui se désincarnait parce qu'elle n'était plus qu'économique. C'était la fin de tout ce qui faisait la gang de la vie sociale et qui se transformait à une société où tout était mis en compétition. Et donc, je voulais suivre le fil de cette transformation qui s'était produite, on va dire, pour aller vite, des années 60 au monde contemporain. Et au fond, ce qui s'est passé les 10 dernières années, c'est que ce vide de cet homme livré à ses seuls calculs de ses plaisirs et ses peines, ce vide, au fond, on croyait tous que les réseaux sociaux, Internet, allaient le combler, qu'ils allaient permettre de créer une nouvelle sociabilité. Et donc ce récit, c'est le récit d'une nouvelle désillusion, jusqu'à un certain point, évidemment, pour expliquer que cette promesse, tout simplement, n'a pas été tenue.
Les promesses non tenues du numérique, vous pouvez nous les rappeler, justement, ces grandes promesses, parce qu'on a presque tendance à les oublier, ça fait longtemps maintenant.
Ouais. Alors, la promesse du numérique, elle est de deux ordres. D'abord, c'est la promesse d'une société d'abondance. C'est la promesse d'une société dans laquelle, sur le net, vous avez accès à tout, à une infinité de chansons. Grâce à Tinder, dont je sais que vous avez parlé la semaine dernière, la promesse d'une infinité de rencontres, de connaissances sur le modèle Wikipédia.
C'est Tinder, effectivement, limite. Et les chansons, c'est peut-être Deezer ou Spotify.
Voilà, Spotify, Tinder, etc. Donc, c'est une société d'abondance. Et d'ailleurs, c'était le terme dans lequel, je crois, Eric Schmidt parlait du monde qui était en train de venir. Et puis, d'un point de vue strictement politique, c'était la promesse d'une nouvelle agora planétaire, la manière nouvelle de construire un cadre démocratique. Et je dois dire que moi-même, au tout début d'Internet, dans les années 90, avant les réseaux sociaux et les pathologies qu'on va décrire, moi, j'ai pensé que la mondialisation avec Internet avait créé les moyens d'une société civile planétaire qui allait en quelque sorte se construire en vis-à-vis de la mondialisation et qu'elle allait servir de contre-pouvoir à cette mondialisation. On le voyait un peu dans les mouvements alter, et je pensais que c'était ça qui était en train de se construire. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont manifesté une attente, une impatience à l'égard de cette société mondialisée qui allait trouver les moyens de fabriquer toute seule son espace démocratique.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, la mondialisation d'Internet, finalement, quand on a vu arriver les GAFAM, cet Internet marchand à tout craint.
Voilà, donc ça fait partie évidemment de ce qui s'est produit, c'est-à-dire l'apparition de grands monopoles qui en réalité ont fait remonter la rente, les profits en quelque sorte, qu'ils obtenaient en mettant le reste du monde en compétition. Ils en ont profité pour faire remonter les profits. Mais le point simple, bon, évidemment, on peut pas tout mettre sur le dos d'Internet et des réseaux sociaux, mais le point simple, c'est que c'est une période au cours de laquelle, en réalité, de partout, les populismes ont cru, et loin de créer une société civile planétaire, quelle que soit la responsabilité directe du numérique, ce qui est certain, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a plutôt assisté au processus exactement inverse avec les Trump, là maintenant en Italie, Meloni, et plus généralement la montée de l'extrême droite. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait au début de cette civilisation qu'on croyait au contraire porteuse d'un espoir conversationnel, d'ouverture, d'émancipation, de tout ce qu'on voudra.
D'ailleurs, au début justement de l'histoire des réseaux sociaux, qui sont apparus finalement il y a pas si longtemps, avec en plus l'arrivée vraiment des smartphones, 2005, 2007, etc. On a eu justement un petit peu ça avec, par exemple, les révolutions arabes, 2010-2011, où on avait vraiment justement ces réseaux sociaux qui, dans l'angle mort de la censure, dans l'angle mort du contrôle en fait et du pouvoir, pouvaient permettre à des uns et des autres de s'organiser et de fomenter des révolutions. Ça existait tout de même.
Bien sûr, ça existait et ça existe encore. Et c'est la phase de lumière des réseaux sociaux, c'est-à-dire en effet la capacité de donner à une voix à ceux qui n'en avaient pas. Et tout ça, évidemment, est à mettre au crédit. Donc, quelles que soient les choses dont on va pouvoir parler pour expliquer la déception tout de même assez patente par rapport à cet idéal démocratique, il est certain qu'il y a encore une flamme dans les réseaux sociaux qui correspond à cette attente. Les femmes en Iran aujourd'hui sont en train de défier un pouvoir dont on croyait qu'elles les avaient muselées à jamais.
Et d'ailleurs, l'Iran, je me permets d'intervenir, coupe les réseaux sociaux, a déjà coupé les réseaux sociaux occidentaux depuis longtemps, depuis une autre révolution, celle de 2009, mais encore aujourd'hui, ils coupent Instagram, ils coupent WhatsApp, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est aussi un moyen pour la jeunesse de se retrouver.
Ah, bien sûr, c'est l'instrument d'un contre-pouvoir. Et dans le livre, j'essaye de montrer jusqu'à un certain point, parce que ces choses-là ne peuvent jamais être montrées, qu'il y a une filiation directe entre cette espérance, entre les printemps arabes, les MeToo, les Black Lives Matter, enfin toutes ces choses nouvelles qui ont permis de porter haut une contestation, une dénonciation de l'injustice. Il y a un fil qui nous ramène aux années 60. Je crois qu'il y a un lien profond entre la contre-culture des 60s et les réseaux sociaux et la civilisation numérique, entre guillemets, qui est en train de se porter. Et par, entre autres choses, une médiation très simple qui est que les pionniers de la révolution numérique dans les années 70 ont été profondément habités par cette aspiration à un monde qui renverserait les vieilles hiérarchies du passé, ce monde patriarcal, ce monde en verticalité. Il y a eu l'espérance de donner à la société les moyens de se penser autrement sur un plan d'horizontalité où chaque parole mérite d'être écoutée. C'est vraiment la contre-culture des années 60 qu'on retrouve ici s'exprimer dans tous ces mouvements de protestation contre les dictatures et les régimes totalitaire.
Effectivement, parce que vous nous dites que cet homo numericus, il est l'héritier de deux révolutions profondément contradictoires, celle des années 60 que vous venez de décrire et celle des années 80.
Et c'est ça le point où tout se dissout. Je pense que le poison qui vient contaminer cette espérance, il est en grande partie lié à cette autre mamelle de la révolution numérique, qui est la contre-révolution conservatrice des années 80, et qui va en un certain sens prolonger à sa manière la protestation de mai 68 contre la verticalité du pouvoir. Dans les années 60, ce qu'on ne supporte pas, c'est cette manière du haut de la hiérarchie à faire passer des ordres jusque tout en bas, hein, le mandarinat dans les universités, la hiérarchie très dure qui pouvait exister dans les usines, qui pouvait aussi exister dans les familles. Donc cette aspiration à un monde d'horizontalité, Elle survit dans la révolution numérique, mais elle survit aussi d'une certaine manière dans les années 80. Mais elle est profondément transformé. En quoi ? En un monde où le lien de subordination qui pouvait exister dans une usine industrielle des années 60 est transformé en un rapport de compétition. Ce que fait la société, selon Thatcher et Reagan, c'est casser les collectifs qui pouvaient exister, pour casser, entre autres choses, les syndicats qui avaient bâti leur pouvoir, et pour organiser quelque chose de tout à fait différent, qui est la mise en compétition des différents segments de la société dans un rapport nouveau de donneur d'ordre et de sous-traitant, qui fait que vous n'obéissez plus à votre supérieur hiérarchique parce que vous n'êtes plus dans l'entreprise de celui qui auparavant vous donnait des ordres, vous êtes devenu son sous-traitant, et c'est l'extraction par cette mise en compétition de la rente, des profits, que la révolution numérique va aussi contribuer à faire. Donc il y a une espèce de poison qui vient gâcher en quelque sorte la fête 68A et qui au fond consiste à dire « Vous ne voulez plus des hiérarchies ? Très bien, on les supprime. Mais maintenant, c'est tous contre tous. Vous allez être en compétition générale. » Et c'est ce qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous faire entendre sur les réseaux sociaux, en fait, vous êtes seul face à tout le monde. Vous êtes un individu isolé qui cherche à faire société avec des gens avec lesquels, en réalité, il est en compétition, et ça crée cette cacophonie.
Voilà, parce que vous le dites, si on est en compétition avec les autres sur les réseaux sociaux, pour se faire entendre, il faut parler fort, il faut aller justement dans un discours qui va être radical, polarisant, pour essayer justement que la parole émerge, parfois même au-delà de ses propres idées ou propres pensées. D'ailleurs, vous le dites, vous êtes assez critique sur les réseaux sociaux, pour justement dans votre livre, vous dites qu'ils provoquent une désinhibition numérique.
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, d'abord en général, on ne sait pas qui vous êtes, donc vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Donc il y a effectivement une pulsion du « ça », terme freudien, qui n'est plus contrôlé par un surmoi, qui est que vous voulez vivre quand même dans une société où vous êtes respecté, donc il n'y a plus ça. Donc en effet, c'est la victoire du « ça » sur le surmoi, pour le dire comme ça. Et puis en effet, comme vous l'avez très bien résumé, vous êtes ce que les économistes appellent une économie de l'attention, c'est-à-dire il faut que ce soit vous qu'on écoute. Et donc il faut aller à l'innommable, il faut aller à l'horrible. Et d'une certaine manière, les attentats islamistes sont, au fond, utilisent cette grammaire des réseaux sociaux, sont peut-être profondément imprégnés par cette culture qu'on trouve dans la société numérique. Quand on décapite des gens, c'est pourquoi ? C'est pour montrer l'horreur, c'est pour attirer l'attention sur soi. Quand on se suicide soi-même alors qu'il n'y a pas toujours un intérêt opérationnel à le faire, c'est parce que ça fait partie du deal. Vous allez avoir, même dans la mort, ce quart d'heure de célébrité dont parlait Andy Warhol, pardon.
Dylan a eu aussi, et il l'a toujours.
Mais qui a eu Andy Warhol, qui a annoncé exactement Andy Warhol et qui est exactement ce qui habite les choses. Donc on a cette société qui peut-être, on a cet homo numericus très bizarre qui est à la fois anti-système, parce que c'est l'héritage de mai 68, on dénonce les injustices, on dénonce le patriarcat, on dénonce les dictatures, très bien, mais aussi profondément individualiste, profondément libéral. Il faut se battre avec les autres, on n'est pas sur un pied d'égalité, et tout ça crée cette espèce bizarre, anti-système et libéral à la fois. Le populisme se nourrit de cette dualité. Trump est anti-système et libéral. Madame Meloni, elle est anti-système et libérale. Donc il y a quelque chose ici qui fait résonance avec la manière dont, y compris nos représentations politiques, sont en train de se transformer.
Effectivement, c'est aussi cette manière où on va instrumentaliser même les douleurs, les discriminations à ses fins personnelles, vous le disiez, puisque vous parlez à la fois d'individualisme et d'anti-système, ce qui fait que le mot numéricus, là, tel que vous le décrivez, on n'a pas trop envie de le rencontrer.
On n'a pas toujours envie de le rencontrer. Si je rencontre une femme iranienne aujourd'hui, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de même les révolutions arabes, enfin toutes les choses dont on a parlé. Donc il faut juste comprendre que il y a une aspiration qui naît et qui est entretenue sur les réseaux sociaux, mais qui est gâchée, et pour le dire d'un mot, elle est gâchée par, au fond, ce tropisme libéral qui est de penser qu'on peut, au fond, faire société tout seul. Madame Thatcher disait, la société, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Elle voit la société comme un agrégat d'individus. Et il y a cette idée qu'en donnant les moyens de communiquer à des individus isolés, on peut faire société. Non, c'est pas vrai. Pour faire société, il Il faut des organes sociaux, des corps intermédiaires, il faut des sociétés de savants, il faut des syndicats, il faut des partis politiques.
Il faut du collectif.
Il faut du collectif avec ses règles. C'est-à-dire qu'une institution, c'est quelque chose où il y a une éthique professionnelle. Je dis dans le livre à un moment donné, je n'aimerais pas que ma sécurité dans les avions dépende de l'intérêt bien compris des compagnies aériennes. Ça ne me va pas, parce qu'à un moment donné, il y a toujours, à ce moment-là, un administrateur fou qui dit, de toute façon, on n'a plus d'argent, tant pis si, je sais pas, les sécurités ne sont pas là, de toute façon, on fera faillite sinon. Enfin, ce qu'en anglais, on appelle gamble for resurrection, il y a toujours ce pari. Donc, c'est pas l'intérêt, ne me suffit pas. Et je ne veux même pas seulement que des mesures de coercition policière soient là. Je veux un esprit de corps des pilotes qui fassent qu'ils sont habités par leur profession, par des règles de conduite qui les amènent à dire « je ne décolle pas ». Vous pouvez me menacer de me licencier, etc. Je ne décolle pas parce que si je décolle dans ces conditions, au fond, j'aurai honte et je serai la honte de mes collègues. C'est ça que font les institutions, c'est ça qui manque sur le net.
Oui, ça me rappelle justement cette phrase de Sherry Turkle qui parlait d'être seul ensemble, quand vous disiez justement qu'on peut faire société en étant une multitude d'individus. Alors heureusement, on peut compter sur certains individus courageux pour essayer de dénoncer certains travers des réseaux sociaux, comme ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Je pense à cette ex-employée de Facebook, Frances Haugen, qui l'an dernier avait révélé à sa manière la toxicité, et c'est ce qui permet aussi de faire avancer les choses.
Facebook connaît énormément de solutions, des solutions qui fonctionneraient partout dans le monde, pas juste sur certaines langues ou en choisissant entre des bonnes idées et des mauvaises idées. Il y a des modifications à faire sur la plateforme parce que ce n'est pas une question de mauvaises personnes ou de mauvaises idées. Il s'agit d'un système qui hyper-amplifie les pires contenus. On avait une version de Facebook en 2008 où on avait un fil d'actualité qui était sur la famille et les amis. Le nouveau système pousse vraiment les personnes dans des groupes énormes, des groupes qui, par inadvertance, sont des groupes beaucoup plus extrêmes parce que eux aussi fonctionnent avec ce classement par engagement. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce scandale en Allemagne où on a vu que 65% des personnes qui rejoignaient des groupes nazis les rejoignaient parce qu'ils avaient été suggérés par Facebook.
Voilà, des propos assez forts justement de Frances Haugen quand la parole vient de l'intérieur. C'est toujours très intéressant à entendre.
Absolument, elle a fait des révélations incroyables. Elle explique par exemple que Facebook, qui possède Instagram avait parfaitement identifié que cette manière de se mettre en scène créait chez les jeunes filles de 11 à 13 ans des troubles psychiques terribles parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur corps. On les oblige au fond à se montrer comme si elles étaient déjà des poupées Barbie. Et on voyait que ça créait des troubles psychologiques très violents chez ces jeunes filles. Ce que raconte Frances Haugen, c'est que Facebook à appuyer sur le bouton. C'est pas, il a pas dit bon, c'est un effet collatéral, c'est pas de ma faute en tant que tel. Non. Il connaissait l'origine du mal et il a ciblé ces jeunes filles pour qu'elles consomment Instagram parce que il voyait qu'il y avait une clientèle potentielle. Elle raconte aussi que sur Facebook, ils ont très vite compris, elle le rappelle à l'instant, que les contenus haineux, les contenus violents sont ceux qui circulent le plus. Et ça ne les a pas du tout gênés. Au contraire, ils ont encouragé la chose. Il y a une étude récente, je crois que c'était Nature ou Science, je ne sais plus, mais qui montrait que les fake news, c'est-à-dire des news dont on a identifié qu'elles étaient absolument non sourcées, absurdes, etc., circulaient, je ne sais plus, chiffre, en fait, à chaque fois je le cite, et je
jouis de vérifier. Entre 3 et 5 fois plus.
100 fois plus.
Ah oui, d'accord.
100 fois plus que les news réelles.
C'est ça, on le voit d'ailleurs sur toutes les classes d'âge. On le voit aussi sur des publics qui ont plus de 50, 60 ans, comme aussi chez les jeunes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les jeunes
non,
qui sont...
Non, bien sûr. C'est juste qu'ils sont un peu plus gros consommateurs que les autres. Mais bien sûr. Parce que les fake news, ce n'est pas fait pour être fake. On s'en fiche. C'est fait parce que c'est ça qui attire le regard. C'est ça qui attire l'attention. C'est cette économie de l'attention dont je parlais tout à l'heure. Donc, on croyait découvrir un monde d'informations, encore une fois, d'intelligence collective. Et tout est fait en réalité pour aller chercher vos pires instincts, c'est-à-dire ceux du voyeurisme, de l'information qui doit être très courte en plus, parce qu'on n'a pas le temps de consacrer beaucoup de temps, parce qu'on est immédiatement sollicité par une autre information. Donc, de ce point de vue-là, c'est une régression assez considérable.
Vous l'avez dit, en même temps, si on est dans un individu, on va dire, rationnel économiquement, et qu'on se met de la place de la plateforme, elle comprend que ce qui fonctionne pour attirer notre attention, puisque c'est bien leur moteur économique, c'est d'aller vers la viralité, vers des contenus haineux. Donc, quelque part, Facebook Facebook qui, lui, cherche à engranger le plus d'argent possible. C'est sa fonction, quelque part, en tant qu'opérateur économique. Surtout que pendant très longtemps, ils sont dédonnés de toute responsabilité en ne se positionnant pas comme un média, ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui. Donc, pour réguler généralement ces animaux économiques uniquement intéressés par le profit et la rentabilité, il faut peut-être une régulation. Qu'est-ce que vous pensez des textes comme le DMA et le DSA qui concernent justement les réseaux sociaux qui vont peut-être arriver à l'échelle européenne en janvier prochain? Est-ce que ça peut être aussi...
Il faut, bien sûr, il faut réguler, mais avant d'y venir, ce que vous disiez, ils sont habités par une logique économique, donc d'une certaine manière, il n'y a pas de moralité ou de jugement moral à avoir, c'est ce que disaient les cigarettiers, hein. C'est nous, on vend des choses...
Question provocatrice, vous en doutez.
Bien sûr, mais je réponds sur ce terrain aussi. C'est vraiment, on est dans l'ordre de la toxicité d'un produit qui fait mal à la santé mentale des jeunes filles et qui est exploité pour cette raison. C'est là qu'il y a quand même il y a un crime moral quand même. Alors la régulation, oui, bien sûr, il faut de la régulation. On en a fait l'expérience sur la collecte des données. Il faut aussi tout simplement réduire leur pouvoir de monopole qui est tout à fait extravagant et dont ils profitent intimement. Mais je pense que la régulation, elle ne viendra pas seulement des autorités, elle ne viendra pas seulement de l'autorégulation qu'on pourra s'imposer nous-mêmes, elle viendra dans un combat de ces collectifs dont on parlait. Il faut que les écoles, il faut que les médecins, il faut que s'associent pour, au fond, proposer un autre monde désirable aux enfants. Il faut se battre sur ce terrain. Les enfants ne lisent plus, beaucoup moins, parce qu'ils sont le nez sur leurs réseaux sociaux. Il faut reconquérir leur attention avec des choses qui les mobilisent. Harry Potter a été lu par tous les gosses de 10 à 15 ans, alors que c'est 7 volumes, c'est dense, c'est lourd. Donc le rapport à l'écrit, même pour cette génération, n'est pas perdu. Mais il faut y réfléchir, il faut en faire un sujet et les attirer, les ramener vers cette culture humaniste, je crois, dont l'écrit est le fondement et qui sont en train de quitter. C'est pas en interdisant qu'on arrivera, en interdisant on crée du désir très souvent en réalité.
Et puis il faut quand même aussi évoquer tout de même tous ces systèmes de braconnage, pourrait-on dire, c'est-à-dire on va détourner l'outil. Vous parliez justement de littérature, on m'accordera d'ailleurs une émission à ce sujet-là dans quelques semaines, où TikTok, qui est aujourd'hui le réseau préféré des jeunes, bien au-delà de Facebook, peut aussi être un prescripteur littéraire avec des jeunes qui vont partager leur passion en disant qu'il faut lire ceci et cela. Je ne dis pas que c'est la majorité effectivement de ces réseaux sociaux, mais ça fait aussi partie des usages des jeunes, sans tomber dans un discours qui parfois, en étant alarmiste, je ne dis pas ce qui est votre cas, mais qui peut culpabiliser et qui devient peut-être stérile aussi.
Ah non, quand on interdit, qu'on culpabilise, on a perdu. Ça veut dire qu'on revient à un discours d'autorité du vieux con qui dit « Ah, regarde, il ne lit pas », etc. Donc il faut faire de la séduction. Non, je souris à l'évocation de TikTok parce que ce que je raconte, sans en être tout à fait sûr, ne fréquentant ni l'un ni l'autre vraiment, c'est que TikTok l'a emporté sur Facebook parce qu'il proposait des séquences beaucoup plus courtes que Facebook. C'est-à-dire Facebook, vous pouvez tomber sur une vidéo qui va durer 3 minutes, c'est très long, ou 4 minutes, je ne sais pas exactement les temps de grandeur, vous savez ça beaucoup mieux que moi. Mais sur TikTok, on est assuré que c'est très rapide. Donc on est dans la culture de ce temps très court. Je cite dans le livre les travaux d'un grand psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, qui dit, au fond, l'être humain, il pense à deux niveaux. Il y a le système 1, où on réagit très vite. C'est celui qui nous permet de traverser une rue sans faire tous les calculs compliqués, en s'appuyant comme ça sur quelques repères. Et puis le système 2, c'est celui de la réflexion, c'est celui de la sagesse, c'est le temps qu'il faut pour réfléchir à ce qu'on dit, pour prendre le temps de lire un livre. Et on voit bien que ces réseaux sociaux nous entraînent dans le seul système 1, c'est-à-dire quelque chose où, au fond, pour le dire très, très bêtement, c'est pas ça que dit Kahneman, c'est plus subtil, mais on est tout le temps du côté de l'émotion. Et
de la pulsion, même, de la réaction.
Voilà, la réaction, on se crée une grammaire qui permet d'aller très vite, dans laquelle on peut avoir d'ailleurs une intelligence extrême, quoi. On est capable, tic-tac, de faire plein de trucs, etc., et pas le système 2. Qui est celui où on réfléchit. Alors chez Spinoza, il y a un troisième genre de connaissances. Il y a un, c'est un petit peu ça, la réactivité, la superstition, la pensée rapide. Deux, c'est la raison. Et puis trois, chez Spinoza, sans être un expert, il y a un troisième genre de connaissances qui est celui du sage, qui fait que si je vous dis combien vaut racine de 4, vous allez me répondre 2. Enfin, j'espère, en tout cas, vous allez le faire, voilà. Parce que il y a quelque chose qui font qu'on peut raisonner vite, mais intelligemment. C'est ce troisième niveau, la béatitude, où je sais ce qui est bien, sans avoir besoin de me prendre la tête, mais parce que je suis passé par toutes ces étapes de raisonnement dans ma vie. On ne peut pas arriver à la sagesse si on passe pas par l'étape intermédiaire qui est le système 2. On reste enfermé dans le système 1. Il faut s'en déprendre en offrant à la jeunesse en particulier, mais en résistant aussi soi-même à la tentation de rester sur sa tablette. Seulement, c'est ce que je fais. Il y a une heure où je ferme tout et je prends mon lit. Si je m'impose pas ça, je peux rester sur ma tablette jusqu'à tard le soir en disant, donc il y a une discipline, il y a des choses.
Et parce qu'on sait très bien que ces réseaux sociaux, ces plateformes exploitent aussi les failles du cerveau humain, ont bien potassé les neurosciences et savent très bien où appuyer pour nous rendre dépendants aux outils. Alors, vous avez parlé de trois temps, de trois phases. Dans Le Meilleur des Mondes, on a une quatrième. Le quatrième temps, celui de la musique. Elle est signée Aurel San, L'Odeur de l'Essence.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes. Allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le sable du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz fortes avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens. Comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompu, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, perdant la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques.
Aurel San, nostalgique dans Le Meilleur des Mondes et son Odeur de l'Essence. D'ailleurs, il y a un peu d'odeur de l'essence aussi dans Homo Numericus, la cellulation qui vient. C'est signé d'Alain Cohen et c'est sorti il y a quelques semaines chez Albin Michel. C'est l'occasion justement d'en parler tout au long de cette émission de cet Homo Numericus. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal.
Better, happier, comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes. François Saltiel.
Et on commence ce journal en partant en Arabie Saoudite pour arpenter les magnifiques dunes ensablées, vivre un lever de soleil en plein désert après une nuit étoilée. Cette carte postale du pays est celle que promeut depuis 2019 des influenceurs payés par le régime pour développer l'industrie touristique et sortir de la dépendance pétrolière. Une campagne de communication sous les radars classiques qui s'intensifie depuis quelques mois. Selon Mediapart, pas moins de 300 influenceurs sont venus depuis 3 mois. Des stars occidentales, des réseaux acheminés en avion et payés une petite petite fortune pour faire l'apologie du royaume. Une image aseptisée qui entend bien faire oublier la problématique des droits humains et la répression d'une jeunesse parfois féminine qui aspire à plus de liberté. En août dernier, une militante des droits des femmes a été condamnée à 34 ans de prison. 34 ans de prison pour des tweets féministes. Mais c'est tout le paradoxe du prince héritier Mohamed Ben Salman, tout juste nommé Premier ministre, qui doit lâcher du lest pour attirer une nouvelle clientèle sans déplaire aux plus conservateurs. Une équation complexe censée être résolue par un troupeau d'influenceurs.
Saudi Arabia's near-term economic outlook is strong.
Le groupe Meta, maison mère de Facebook, est de nouveau dans le collimateur. Ici, c'est l'ONG Amnesty International qui accuse le système algorithmique de la plateforme d'avoir entretenu et amplifié les messages de haine contre la communauté musulmane des Rohingyas. Pour rappel, dès 2016, l'armée birmane s'est livrée à une persécution contre cette communauté. Incendies, viols, meurtres. Près d'un million de personnes ont dû fuir le pays pour des camps de fortune, notamment au Bangladesh. Des victimes soutenues par Amnesty qui demandent donc réparation pour avoir laissé passer sans une modération suffisante. Cette haine aveugle, suffisante étant un euphémisme, d'après certains documents internes, en 2018, seuls 5 modérateurs étaient employés par la firme américaine en Birmanie pour tenter de réguler les contenus de 18 millions d'utilisateurs. Ce combat reste celui de David contre Goliath, mais témoigne des failles dramatiques de la modération des plateformes.
Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide le gouvernement birman à comprendre nos souffrances. Aide-le à comprendre qu'ils aient de l'amour pour nous, les Rohingyas.
Et on termine ce journal par un nouveau programme produit par Amazon. Il s'appelle Ring Nation et vous allez voir qu'il peut rentrer tout simplement dans la case dystopique, ce programme. Le principe, une humoriste américaine, Wanda Six, commande des images humoristiques de caméras de vidéosurveillance récupérées à partir des sonnettes connectées Ring. Pour rappel, un Ring, ce sont des sonnettes avec des caméras intégrées qui appartiennent à Amazon. Elles sont installées sur des centaines de milliers de portes d'Américains. Le programme propose donc de se bidonner devant des chutes sur le pas de la porte, des animaux sauvages qui passent et autres gadins liés aux intempéries. Une idée loin de faire rigoler les défenseurs des libertés individuelles. Et un sénateur du Massachusetts qui déclare qu'Amazon produit une publicité pure et simple pour ses produits et fait passer la vidéosurveillance pour du divertissement. Rappelons que ces images issues des sonnettes Ring sont depuis longtemps fournies aux services de police du pays, hein, aux plusieurs centaines de services de police, et ont pu permettre l'identification de manifestants, dans le cadre notamment du mouvement Black Lives Matter. Il s'agit donc d'une sorte de Big Brother de paliers. Donc je résume. Ring Nation est un programme produit par Amazon qui fait la promotion de sonnettes Amazon en se moquant des glissades des livreurs Amazon tout en banalisant la vidéosurveillance. Pas de doute, vous êtes bien dans le meilleur des mondes. Un commentaire peut-être, Daniel Cohen, par rapport à ces trois petites brèves.
Bon, écoutez, toutes sont magnifiques, hein, bravo. Non, le premier, c'est sur l'Arabie Saoudite qui pense qu'avec des influenceurs, ils vont pouvoir gagner le cœur des gens. C'est ne pas comprendre ce dont on parlait tout à l'heure. La culture des réseaux sociaux, elle est anti-système. Il y a des influenceurs, évidemment, exactement, bien sûr, mais elle est anti-système. Et quand on ouvre la porte aux réseaux sociaux, s'y engouffrent très vite les contestataires. Donc je pense qu'il y a une erreur de raisonnement. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux ne servent pas les pratiques de surveillance des régimes comme la Chine ou la Russie, bien entendu. Il y a les deux, mais ils sont comme l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. On peut pas les séparer. Donc moi, je ne crois pas à la...
C'est un message assez optimiste, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes, justement, de cette propagande sur un canal celui du contre-système.
Exactement. Ils savent qu'ils sont surveillés, donc ils peuvent se taire, là, pour ne pas... Donc, surveillance, oui, instrument des régimes totalitaires, certainement aussi, mais aussi, simultanément, instrument des protestations anti-système. Donc, l'idée de pouvoir garder que la dimension, on va dire, ludique, et en empêchant que s'y engouffre la dimension protestataire, je n'y crois pas.
Et peut-être une petite dernière réaction par rapport à ce programme Amazon, où là on va vraiment faire de la surveillance, de la vidéosurveillance. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une forme de dystopie.
On est dans Black Mirror.
On est dans Black Mirror.
On est vraiment dans Black Mirror.
Une série anglaise merveilleuse. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à la découvrir si ce ne s'est pas encore fait. Et on peut la lire d'ailleurs entre vos pages, cette série Black Mirror. Vous y faites mention deux, trois fois.
Elle me sert d'introduction à plusieurs chapitres, parce que justement, on y trouve dans cette série ce mélange de dérision, de tout et en même temps de tentation de la surveillance générale. Et là, l'histoire que vous racontez d'Amazon, c'est exactement les deux, c'est-à-dire la dérision. Très bien, rien n'est réel. En fait, il n'y a plus de principe de vérité, il n'y a plus de principe de réalité. On peut s'amuser de tout et en même temps, on surveille. C'est un instrument de la mise en surveillance des personnes. Donc c'est ça qui, effectivement, dans votre histoire, est magnifique, entre guillemets. Enfin, c'est le meilleur des mondes.
Voilà c'est ça, c'est le meilleur des mondes. Justement, on peut rester sur Amazon. Quand on regarde sur Amazon la manière aussi dont cette économie fonctionne, vous, par rapport à justement Homo Numericus, vous parlez d'une croissance appauvrissante. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Amazon, on va avoir des livreurs qui vont être exploités, externalisés aussi, vous le disiez. On est vraiment là aussi dans une sorte d'incarnation brutale.
Alors, exactement. C'est-à-dire que quand je parle dans un des chapitres, en effet, de croissance appauvrissante, et il y a deux significations à ce terme d'appauvrissement. D'abord, il y a le terme simple et économique. À partir du moment où on est dans une société comme celle qui s'installe dans les années 80, où il n'y a plus d'institutions qui permettent à l'ouvrier, à l'ingénieur, au contremaître d'appartenir à la même grille des salaires et au même monde, les inégalités explosent. Et c'est ce qu'on observe aux États-Unis. Il y a une statistique incroyable sur les données américaines, alors que les inégalités atteignent des niveaux aberrants, où le 1% gagne deux fois plus que les 50% les plus pauvres. C'est un truc de fou. Enfin, c'était l'inverse, 30 ans plus tôt. Eh bien, les inégalités au sein des entreprises n'ont pas beaucoup bougé. Pourquoi ? Parce qu'au sein des entreprises, on est entre soi. Il y a des bureaux d'études, il y a des ingénieurs, il y a des services d'entretien. Tout le monde est en réalité à peu près à parité, mais c'est le lien entre ces différents étages qui est brisé. Donc c'est une croissance qui est appauvrissante au sens où la richesse ne percole pas. Reagan s'était fait lire en disant la richesse va percoler si j'enrichis les riches. Ça va descendre, ça s'appelait
le ruissellement.
Le trickle-down en anglais. En fait, tout a été fait scientifiquement pour que précisément ça ne ruisselle pas. Donc c'est en ça qu'elle est appauvrissante pour les plus fragiles. Mais la deuxième raison pour laquelle elle est appauvrissante, c'est que en réalité, je vous en parlais dans votre propre livre, en réalité, on comprend que la révolution numérique, d'un strict point de vue économique, elle vise à faire quoi ? Elle vise, à l'image des révolutions industrielles du passé, à générer des gains de productivité dans les activités qui forment aujourd'hui le cadre de ce qu'on fait, à savoir les activités de service. Les gains de productivité dans l'industrie, comme il y a eu au 19e ou 20e siècle, c'est facile à comprendre. Au 20e siècle, c'était permettre à un ouvrier de fabriquer une bagnole deux fois plus vite. Donc le travail à la chaîne, l'ergonomie des gestes permettait de faire que la bagnole, elle allait de plus en plus vite, assistée éventuellement par des robots pour qu'on assemble tout ça très vite. C'est ça la productivité du monde industriel, c'est au fond améliorer entre guillemets le rapport de l'homme à la matière. Dans la société de service, les services c'est quoi ? C'est des rapports interpersonnels. Je vais voir mon médecin, je vais voir mon coach sportif, je vais écouter un enseignant. Voilà, c'est ça les services. Je vais dans un restaurant où on va me servir. Voilà, je suis dans un environnement humain. Les services, contrairement à l'industrie, ont toujours eu beaucoup de mal à générer des gains de productivité. C'est difficile.
Il y avait du temps humain.
Il y a du temps humain. Il faut aller se rencontrer, voilà, là, on n'y a pas de productivité. Enfin, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, mais nous deux, dans l'activité qu'on a, la conversation, on peut aller plus vite, enfin, j'ai toujours tendance à faire quand le temps passe, mais on ne peut pas véritablement raconter plus vite
une pièce. On ne peut pas compresser.
On ne peut pas compresser le temps d'une pièce de Shakespeare. Il y a un grand auteur qui s'appelle Baumol qui disait, voilà, il faut toujours le même temps pour entendre les tristes histoires de la mort des rois de Richard II. Ben, le numérique, c'est ce qui va permettre d'aller plus vite. Comment ? Ben déjà, et on l'a vu avec le Covid, on disparaît pensant les gens de se voir en face à face. Je peux travailler chez moi derrière mon ordinateur. J'ai pas à faire le temps de transport, j'ai pas besoin d'avoir des logements, etc. Je peux faire de la télémédecine, j'ai pas besoin d'aller voir le docteur, etc. Bref, la promesse du numérique, c'est de, au fond, appauvrir les relations humaines en dispensant tout simplement les humains de se rencontrer, en ne leur laissant comme espace de communication que leur écran de télé. D'ailleurs, vous rentrez dans n'importe quel bureau ou dans n'importe quel logement, on est derrière un écran exactement comme on était à la chaîne derrière des boulons. C'est ça qui a remplacé le travail à la chaîne aujourd'hui. On parlait de Tinder tout à l'heure, c'est exactement ça. En fait, on veut créer du chiffre, pouvoir rencontrer le maximum de gens en restant très très peu de temps avec la personne en question. question, en ayant juste tiré un coup, just fuck, comme disait Eva Illouz. Et puis, voilà, on peut du coup générer du rendement dans une société de services qui, a priori, ne s'y prête pas. Voilà le drame du monde numérique. Elle est appauvrissante de relations humaines parce qu'elle est pensée pour ça. Donc, les Netflix, c'est restez chez vous, vous allez avoir de très bons films. Amazon, restez chez
vraiment
vous.
Vraiment, une idée. En fait, c'est marrant pas parce que vous appelez ça homo numericus, mais on revient à la position sédentaire, finalement. Est-ce que l'économie numérique nous ramène à une position sédentaire? Restez chez soi, restez derrière votre écran, et le monde vient à vous.
Et le monde vient à vous, et on va vous fabriquer un monde numérique parfaitement intégré. C'est le rêve de la civilisation numérique. C'est de tout faire rentrer dans la toile, mais encore une fois, avec derrière une révolution industrielle comme les autres, qui vivent comme les autres à améliorer la productivité du travail ou des loisirs. Sauf que cette fois-ci, ça n'est pas l'homme qui travaillait la matière, c'est l'homme qui travaille l'homme, dont il s'agit de réduire les coûts de leurs interactions.
Et parfois, heureusement, l'homme et la femme peuvent se rejoindre, se regrouper. Vous avez beaucoup parlé, et vous avez raison, de désintermédiation. Et on voit quand même un mouvement naissant aux États-Unis dans les GAFAM, à l'intérieur même justement des grandes chaînes comme Facebook ou Amazon, avec l'apparition des syndicats. Ça arrive, ça revient justement ces dernières années. Je vous propose d'écouter tout de suite un reportage.
À New York, les employés d'Amazon ont trouvé leur champ de la victoire. En avril, les salariés de l'entrepôt JFK 8 ont voté pour la création d'un syndicat. Une première historique aux États-Unis depuis qu'Amazon a été créé, il y a 28 ans. Avec son look de rappeur, Chris Mulls est à l'origine du mouvement.
Vous savez, quand les gens s'unissent, ce sont eux qui ont le pouvoir. Les entreprises ont beau avoir l'argent, nous, les gens normaux, on leur a montré qu'on pouvait les battre. Et une fois encore, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on fera grève.
Comme en 2020, quand l'employé d'Amazon organise un débrayage dans son entrepôt pour améliorer les conditions de sécurité. Amazon avait aussitôt écrasé la contestation et renvoyé l'employé. Mais une fois au chômage, Chris Mulls décide de prendre sa revanche. Il organise une campagne pour créer un syndicat. Et contre toute attente, il gagne.
Voilà, il gagne, Chris Mulls. Est-ce que ça, justement, ça peut être porteur d'espoir? Parce que pendant longtemps, il y avait une invisibilité, justement, de tous ces employés qui subissaient. Vous l'avez dit, vous parlez de travail à la chaîne, on en est exactement là. Hein. C'est une sorte de nouveau travail à la chaîne numérique.
Accélération des temps du travail.
Exactement. Ouais. Est-ce que, justement, ça ne peut pas être une sorte de petite piste de solution avec le regroupement des individus?
C'est pas une petite piste. Pour moi, c'est la piste.
C'est la piste.
C'est la piste, c'est de bien prendre d'abord la mesure du fait que ce grand dérèglement dont on a parlé, qui commence dans les années 80, un de mes collègues anciens élèves, Philippe Askenazy, a montré dans sa thèse que le re-engineering des entreprises, c'est-à-dire le démantèlement dont on parlait, a toujours commencé aux États-Unis dans les entreprises les plus syndiquées. C'est pas une coïncidence, parce qu'on voulait briser le pouvoir syndical qui s'était constitué dans les années 50 et 60, dans ces grands ensembles où il y avait une grosse densité de présence et où les ouvriers se savaient forts, se donnaient un pouvoir syndical capable de discuter d'égal à égal avec le management. Tout ça a été brisé en cassant en morceaux cette grande entreprise du passé. Donc, moi, les quelques solutions dont je parle dans le livre, c'est de ne pas enterrer trop vite ces institutions qui faisaient le monde d'hier. Les syndicats, pour commencer, les entreprises elles-mêmes, leur redonner une responsabilité, non pas seulement par rapport à leurs employés, mais par rapport aux employés de leurs sous-traitants. Des choses comme ça. On n'a pas parlé de la vie politique, mais les réseaux sociaux attaquent les partis politiques, proposent une alternative aux partis politiques et héritent de toutes les pathologies dont on a parlé.
C'est des partis politiques qui ne pourraient pas vivre aujourd'hui sans les réseaux sociaux.
Ils ne peuvent pas vivre sans les réseaux sociaux, mais ce faisant, ils sont aspirés entièrement par la logique des réseaux sociaux. Un de mes collègues, Michel Auferlet, disait « Aujourd'hui, la vie politique, c'est un chef et Internet. » Comme Lénine disait « Le socialisme, c'est l'électricité et les soviets. » Un chef et Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière de souder autour de ce chef charismatique, quel qu'il soit, un groupe de followers, ça ne peut être que sur les modèles dont on a parlé. C'est-à-dire une simplification des discours et surtout une détestation des autres. Les bases qui nouent sur les réseaux sociaux, ces collectifs qui vont soutenir tel ou tel parti politique, ne sont pas du tout de même nature que ce que faisaient les partis politiques auparavant. Les partis politiques auparavant, ils avaient une exigence d'exogamie. Il fallait que, je dis toujours cet exemple, l'ouvrier, l'instituteur devait s'entendre pour faire un parti de gauche.
Donc oui, on prenait un café ensemble et il y avait justement une médiation.
Il y avait des médiations, puis on cherchait à construire à partir d'horizons différents, on cherchait à construire des compromis. De même, la droite, c'est l'alliance de la bourgeoisie et de la paysannerie autour de la propriété, de la tradition, mais il fallait mettre ensemble des milieux hétérogènes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que les followers d'un homme politique sont unifiés autour des thèmes que cet homme politique aura pu choisir. Si c'est Trump, c'est la xénophobie. Si c'est Mélanie, c'est les crucifix dans les écoles, je sais pas quoi. Bref, et c'est très dur après pour ces chefs politiques eux-mêmes de sortir de la base très étroite qui les a rendus chefs de gouvernement ou président de la République. Un exemple très simple, dans la dernière élection présidentielle française, les quatre candidats arrivés en tête sont tous les quatre, c'est le quatrième étant Zemmour, tous les quatre en réalité portés par des partis qu'ils ont créés eux-mêmes, à l'exception de Le Pen, dont c'est le parti du père.
Parti hérité.
Oui, hérité. Mais c'est quand même fou. Et les deux partis institutionnalisés que sont le PS et la droite républicaine, les LR, font moins la somme des deux que Zemmour, le quatrième. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit qu'ensuite, les positions sont figées, ne peuvent plus... Il n'y a pas de compromis possible. Regardez ce qui se passe à la Chambre aujourd'hui. Le parti de Macron adorait, en réalité, s'allier aux Républicains, dont il partage à peu près la même plateforme économique. Madame Pécresse elle-même l'a dit. Elle a dit « Vous m'avez volé mon programme ». Mais ils n'arriveront jamais à faire une coalition. Vu de l'extérieur, vu de, je sais pas quoi, de Nouvelle-Zélande, pourquoi vous faites pas un gouvernement commun, vous partagez les mêmes choses? Ben, c'est pas possible! Parce qu'ils se sont construits, en tout cas les Républicains, dans la haine de Macron. C'est ça qui a forgé leur identité, qui forge aujourd'hui leur identité. Et on pourrait multiplier les exemples. Zemmour et Le Pen, tout rassemble. Impossible de s'assembler. Parce qu'ils se sont construits d'une manière, tant mieux, d'une certaine manière. Bon, pour ceux qui n'auraient pas apprécié une telle alliance. Mais c'est juste pour dire que c'est très difficile après d'avoir une vie politique dans laquelle il faut que 50% des gens s'entendent. Donc on va au pouvoir sur une base qui est toujours très minoritaire. Donc on arrive au pouvoir avec au fond un potentiel de 25% d'électeurs. Ouais, et les 75% se sentent, à juste titre d'une certaine manière,
non représentés, abandonnés.
Et donc la légitimité de la démocratie s'étiole.
Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est pour ça qu'ils peuvent se croiser éventuellement dans les ronds-points et qu'il y a d'autres mouvements comme les gilets jaunes.
Les gilets jaunes, effectivement, en manque de lutte, lieu où trouver comme ça ce qui autrefois dans les usines encore une fois permettait cette agrégation sociale, sont obligés d'aller dans les ronds-points, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire ils n'ont pas de lieu naturel. Donc je reviens sur les syndicats parce que c'était votre question de départ, je vais donner un peu une autre dimension, mais pour moi c'est la solution, c'est de repenser cette façon de créer des collectifs avec des institutions dignes de ce nom.
Alors justement, vous parlez des institutions, on a parlé des syndicats, on peut parler aussi des églises. Là aussi on est en quelque part une crise des institutions. Je vous propose d'écouter la chronique de Juliette Deveau qui va s'adresser à vous parce qu'elle a fait un rapprochement entre la religion et le travail, puisqu'on y revient toujours. Vous êtes économiste, écoutez-la.
Daniel Cohen, vous le rappelez dans votre livre, nous vivons dans un âge séculier de l'histoire. La religion n'est plus qu'une option dans nos vies. Et pourtant, le sacré persisterait dans un lieu emblématique de notre civilisation numérique, la Silicon Valley. C'est du moins la thèse soutenue par la sociologue des religions, Caroline Chen, qui a mené une enquête pendant 5 ans dans la vallée et a abouti à une conclusion pour le moins surprenante. Le travail aurait remplacé le rôle de la religion dans la vie des travailleurs de la Silicon Valley.
Alors comment ça se traduit tout ça, Juliette?
Ce qu'elle a observé, dans un premier temps, c'est que de nombreux travailleurs de la tech abandonnent leurs pratiques religieuses lorsqu'ils commencent à travailler dans la vallée. C'est ce qui est arrivé à un ingénieur qu'elle a suivi pendant plusieurs années, un certain John. John était très engagé dans la communauté chrétienne avant de déménager à San Francisco pour travailler en tant qu'ingénieur dans une start-up. À son arrivée, ses 70 heures de travail hebdomadaire ne lui laissent que peu de temps pour aller à l'église. Son quotidien se transforme alors progressivement. Il passe la majeure partie de son temps sur son lieu de travail, s'implique dans toutes les activités proposées par l'entreprise, même les plus spirituelles comme la méditation. Il se crée une nouvelle identité, adopte les valeurs de l'entreprise et finit même par embrasser une nouvelle quête collective, diffuser l'application qu'il développe et qui est censée révolutionner le monde. Et c'est là qu'est la spécificité de la Silicon Valley. En plus de subvenir à tous les besoins des employés dans une forme de maternalisme entrepreneurial qui ne date pas d'hier, les discours messianiques des dirigeants de la tech donnent à la Silicon Valley des allures de sacré. Écoutez le plus homo numericus d'entre eux, Mark Zuckerberg, parler de son projet plus si nouveau du métavers.
Nous avons conçu des outils qui ont permis de rassembler les gens d'une nouvelle façon. Nous avons beaucoup appris de notre lutte contre certains problèmes sociétaux et de notre expérience de plateforme fermée. Désormais, il est temps de prendre en compte tout ce que nous avons appris et d'entamer un nouveau chapitre. J'y consacre toute notre énergie, plus que toute entreprise au monde. Si cet avenir vous inspire, j'espère que vous nous rejoindrez, car le futur sera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Et ce type de discours infuse dans les différentes strates hiérarchiques des entreprises. Les ingénieurs de la vallée, interrogés par Carrogin Chen, empruntent également des termes appartenant au champ lexical de la transcendance pour évoquer les produits qu'ils développent. Les problèmes soulevés par la sociologue face à ce phénomène sont nombreux. Elle pointe notamment le retrait des travailleurs de la vallée d'autres communautés qui font le tissu social du territoire, associations caritatives, partis politiques, communautés religieuses et même sphères familiales. Mais attention, cette étude a été menée avant le Covid-19. Les conclusions serait peut-être différente aujourd'hui dans le contexte de grande démission. Et qui sait, l'urgence écologique et la prise de conscience de certains ingénieurs concernant l'impératif de sobriété numérique pourraient peut-être, à terme, ébranler le pouvoir religieux des géants de la tech. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'y croire.
Alors Daniel Cohen, j'imagine que vous vous retrouvez dans cette chronique.
Oui, c'est magnifique. Je pense à un texte de Émile Durkheim sur le sentiment religieux, justement, dans lequel il analyse les sociétés primitives, leur premier sentiment religieux, et il dit, en fait, nous, comme individus, on se croit dans notre individualité singulière, etc. En fait, pas du tout. Quand on voit une pomme tomber, en fait, on se la représente comme une pomme qui tombe, habitée par des forces de gravitation dans un espace. Tout ça, c'est la société qui nous l'a mis dans la tête. C'est l'apprentissage du monde social qui fait qu'on se repère avec des catégories qui nous viennent précisément par osmose du monde qu'on fréquente avec les adultes quand on est enfant, avec le reste de la société. Et donc, dit-il, la religion, en fait, n'est rien d'autre que le mot par lequel les humains se savent, se sentent sociaux. Donc, il y a un besoin de religion d'autant plus intense qu'en réalité, cet accès à la société dont on parle depuis le début fait défaut. Donc parfois on dit il y a retour de la religion, de la religiosité, etc. Vous lisez Durkheim, vous comprenez tout. La religion est le nom de cet absent qui est la société dans les sociétés qui s'en privent. Alors qu'avant elle était, ça n'a pas du tout donc en un mot la même fonction qu'avant. Avant la religion était véritablement la société. On allait à l'église, on se retrouvait. Aujourd'hui on a un désir de religieux parce que on a un manque de ce qui auparavant était comblé. Alors juste en écoutant cette chronique magnifique, je me demande si on parle de religion ou si on parle de grande prêtrise parce que la religion, il y a une liturgie, il y a des prêtres, il y a des fidèles. Là j'ai quand même eu l'impression d'entendre plus le pape que à proprement parler, un fidèle qui voulait contribuer à la bonté du monde grâce à la religion.
Donc, oui, c'est effectivement un pape qui a des followers, donc des fidèles.
Voilà, qui a des fidèles, c'est les followers. Mais là, on entendait plutôt le pape. Et c'est vrai, je comprends. Je lisais un truc où l'auteur disait « ça doit donner le vertige à ces jeunes gens d'inventer des applications. » Là, comme ça, je ne sais pas, il y a 500 personnes qui inventent des applications dont ils savent que si ça marche, c'est des millions, des centaines de millions, des milliards de gens qui vont vivre selon ce que cette application va dire. Donc il y a un sentiment un peu frankensteinien, je ne sais pas comment il faudrait le dire, de ces personnes, de ces groupes dans la Silicon Valley.
Et donc de toute puissance aussi, pour indiquer un chemin.
Qui façonne la société de demain. C'est une autre des raisons de mon scepticisme, de mon inquiétude, c'est qu'avant, d'une certaine manière, dans le bon vieux temps, qui n'était pas du tout extraordinaire, mais disons, avant dans les entreprises qui à l'époque étaient critiquées, mais les technologies, les progrès techniques venaient des ingénieurs de l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, on cherchait à rendre plus efficaces les ouvriers, mais on cherchait des techniques qui étaient pensées par les constructeurs automobiles. Voilà, c'est quoi le nouveau modèle de bagnole si on va la fabriquer de telle et telle manière? Ça venait de l'intérieur, de la profession, pour parler comme le regrettait Godard. Bon, là, c'est des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire, vous allez avoir une application d'automédication qui va être conçue par des jeunes gens de votre âge, mais qui n'ont absolument jamais fait de médecine. Hubert, le bonhomme qui l'a inventé, il sait pas conduire, par définition, puisque c'est parce que justement, il cherchait un taxi qu'il a inventé ça. Booking, pour donner un autre exemple, a fait une mainmise sur tous les hôtels du monde, alors que si ça se trouve, il n'a jamais mis les pieds dans un hôtel.
Oui, donc, parce que c'est une instrumentalisation. Ce qui compte, c'est la donnée, et après, la voiture, la cuisine, tout ça n'est qu'un prétexte.
Voilà. Et donc, en réalité, ces grands prêtres de la révolution numérique, ils cherchent des applications tueuses qui vont pas aider les médecins, qui vont pas aider les enseignants, mais qui vont se substituer à eux. Et c'est là que ça marche pas, justement. Ça ne marche pas parce que, moi, ce que je voudrais, je renvoie à ce que vous disiez des syndicats, je veux que ce soit les médecins qui disent, tiens, ça serait bien qu'on puisse faire quelque chose, bêtement, un suivi du malade.
Vous parlez de garde-fous, justement, ouais. De votre livre. Alors, là, on va un peu plus loin, vous parlez d'intelligence artificielle, ou justement, qui pourrait remplacer, sans tomber non plus dans le côté trop manichéiste du grand remplacement, c'est pas du tout la question, non. Mais d'arriver à mettre des garde-fous aussi sur des zones comme justement l'humain, la médecine, qu'on ne doit pas franchir.
Encore une fois, je ne crois pas malheureusement trop au pouvoir de la régulation et je ne crois pas à l'autorégulation. Mais je crois dans la puissance, voilà, vous l'avez compris maintenant, au point où vous en avez sans doute assez, mais je crois à la puissance du collectif. Je veux que les médecins dans les hôpitaux, collectivement, un, disposent des moyens, qu'il y ait des laboratoires d'intelligence artificielle dans les hôpitaux, qui les aident à penser ce que serait, à leurs yeux, un bon parcours du malade, et qui soient capables, précisément, parce qu'ils auront des alternatives à proposer, de s'opposer à toutes les histoires d'automédication qui pourront sortir. Un de mes amis s'est cassé une cheville, il m'a dit, formidable, on m'a tout réglé, j'ai même pas été voir le médecin, il avait ma radio, on a réglé ça en 2 minutes. Ça me va. Si c'est le médecin qui décide, voilà. Tant que c'est le médecin qui décide. Mais si c'est pas le médecin, à ce moment-là, on sait pas dans quoi on bascule. On bascule dans la recherche de gains de productivité dont on ne sait pas où ça va atterrir.
Alors, la chronique de Juliette Devaux, elle atterrissait du moins en chute sur la question de l'urgence écologique. On parlait justement tout à l'heure de l'absence de récits, de grands récits, de vouloir justement créer une forme d'imaginaire. Est-ce que, dans ce combat-là, dans cette urgence climatique que de plus en plus de gens commencent à comprendre par la force des choses, est-ce que ça peut pas être ça aussi, le grand récit? Et on voit très bien que le numérique en est également coupable. Pendant longtemps, il y a échappé. Ouais. Aujourd'hui, on sait très bien, c'est documenté qu'il fait partie de cette dégradation de la planète. Est-ce que cet homo numericus pourrait pas trouver son salut, non pas parce qu'il va sans doute peut-être amener à sa finitude, du moins dans la crainte, qui est celle de l'urgence écologique pour se sauver?
Alors, j'aimerais dire oui, mais malheureusement, je n'y crois pas vraiment. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, la dénonciation de l'inaction, cette partie anti-système qui remonte à mai 68, est très importante. On dénonce, on attaque, on désigne, on pointe du doigt les gouvernements qui n'agissent pas. Donc ça me va très bien. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut passer de la dénonciation à l'action. Il faut envisager une société nouvelle, sobre énergétiquement, dont peut-être les impératifs de productivité dont on parlait à l'instant seraient relâchés. Ça ne peut pas se faire sur une boucle WhatsApp. Il faut ces institutions, il faut des savants, il faut des entreprises, il faut des syndicats, il faut des partis politiques qui montrent un chemin. Donc on ne peut pas écarter cette... On ne peut pas se passer de ces institutions que la révolution...
Là, je n'ai pas dit que le numérique sauverait tous les problèmes. Hein.
Donc, c'est quand même le premier point. C'est bon dans la dénonciation, mais ça ne permet
pas de passer... Ça ne passe pas à l'action.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la promesse du numérique, c'est de régler le réchauffement climatique, comme on le disait tout à l'heure, en dispensant les gens de bouger. C'est-à-dire de dire, bah oui, c'est les transports, c'est les avions, c'est les voitures, c'est ça qui pollue. Alors c'est vrai, le numérique pollue, fait 4% des émissions
presque
de CO2.
Que le trafic aérien,
voilà, et ça va, et surtout ça croît beaucoup plus vite, donc on va passer de 4 à 10%. Mais je suis Zuckerberg, je dis, mais avec le métavers, ok, c'est 10%, mais on se débarrasse des 90 autres. Donc moi, je peux réduire des 9 dixièmes les émissions numériques, il suffit de rester branché avec un casque. Donc on le voit aujourd'hui, on est obligé de faire des économies d'énergie à cause de la guerre en Ukraine. Premier réflexe, le télétravail. Voilà, on va faire un jour de télétravail en plus. C'est autant de déplacements en moins. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je dis, le numérique, très bon pour dénoncer. J'ai aucune arrière-pensée, aucune seconde sotte. J'aime ça. Je trouve très important de dénoncer. J'aime l'histoire des jets privés. Voilà, qu'est-ce que vous faites? On est tous en train de se serrer la ceinture et pas vous. C'est bien. Pour dénoncer le système, parfait. Pour construire ça ne va pas se faire comme ça. Et surtout, le risque, c'est que le numérique apporte ses solutions au réchauffement climatique.
Alors là, c'est le technosolutionnisme et c'est un véritable danger.
Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on veut.
Et ça a été déjà l'objet d'une émission du Meilleur des Mondes. Vous parliez justement de ce temps qui était parfois incompressible. Et on arrive au terme de cette émission, Daniel Cohen. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour nous parler de cet homo numericus. J'aurais voulu terminer sur une petite note positive, vous l'avez bien vu, en vous proposant ce récit, ce grand récit. Alors vous avez 20 secondes, tiens, pour la faire, cette petite note positive.
Mais la note positive, c'est la discussion qu'on vient d'avoir, François. C'est-à-dire la possibilité, en effet, de pouvoir dénoncer sans tomber dans le piège de la technophobie. Ça apporte des solutions, c'est utile, mais il faut que ça reste un moyen. Il ne faut pas que ça devienne le monde en soi qu'on habite. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Merci beaucoup, Daniel Cohen. La solution, c'est donc la conversation. Et merci à ceux et à celles qui ont participé. Juliette Deveau à la préparation, accompagnée par Héloïse Robert à la réalisation de cette émission Perret Legras, et à la technique Jordan Fuentes. Le meilleur des mondes pour ce soir, c'est terminé.